Chapitre 11. Quelques jours après, Dona Brigida, d'après une autorisation ecclésiastique, entrait au couvent où elle avait résolu de passer le reste de ses jours. Tout demeura dans le même état qu'auparavant, dans la maison de Don Martin, Paul ayant insisté de la manière la plus chaleureuse et la plus tendre pour que son oncle et sa cousine continuassent à demeurer avec lui. Une année s'écoula ainsi, calme et tranquille. La famille ne passait pas un seul jour sans rendre quelque hommage au souvenir de Don Martin, sans faire quelques prières pour le repos de son âme. Sa mémoire vivait dans les cœurs. Toutes les semaines aussi, on allait faire une longue et affectueuse visite à la veuve de M. de Guevara. Depuis la mort de son frère, l'abbé dépérissait à vue d'œil. Ce saint homme voyait approcher sa fin comme le juste, sans la désirer ni la craindre. Sa seule inquiétude était de penser à Clémentia, chez laquelle les années semblaient ajouter encore un nouvel éclat à la beauté, mais dont l'âme simple et pure avait conservé la candeur, la sincérité et surtout l'inexpérience d'une jeune fille de 16 ans. Que deviendront, au milieu du monde où Clémentia est appelée à vivre, se disait l'abbé, ses idées solides, ses principes arrêtés, mêlés à des sentiments si jeunes et si candides? Qui l'emportera si la lutte s'engage? Ces réflexions le remplissaient de tristesse. Aussi, il en vint, quoique par des motifs plus élevés, à désirer, comme son frère, le mariage de Clémentia et de Paul. Un soir où il se sentait plus malade, Clémentia, après avoir allumé une veilleuse et pris les plus minutieuses précautions, vint s'asseoir à son chevet pour passer la nuit auprès de lui, bien loin de s'attendre au coup qui la menaçait, car rien n'est plus confiant que la tendresse. « Ma fille, dit l'abbé, je crois que Dieu, par ce redoublement de souffrance, veut m'avertir que mon heure arrive. » Ces paroles, comme une flèche aiguë, pénétrèrent le cœur de Clémentia. « Mon Dieu, dit-elle d'une voix émue, ne parlez pas ainsi, mon oncle. Penser à la mort, lorsque vous n'avez qu'un catarrhe, est une appréhension vaine, mais le dire est une cruauté. » Le devoir d'un homme sage est de prévoir tous les accidents. Je songe à la mort parce que cette pensée est la plus utile et parce qu'elle éloigne de nous la terreur que la mort inspire souvent à notre faible nature. Mais je ne puis pourtant penser qu'avec douleur combien tu vas rester seul, toi, ange de ma vieillesse, lorsque je ne serai plus là pour te servir de guide et de père. Clémentia, qui jusqu'alors avait essayé de retenir ses larmes, éclata en sanglots en entendant ces dernières paroles. « Si vous me manquez, s'écria-t-elle, je ne veux plus vivre. Connaissant ton bon sens et ta piété, je ne te croyais pas capable de parler ainsi, Clémentia, lui dit l'abbé. Ces paroles sont en opposition avec l'esprit de résignation dont Dieu lui-même nous a donné de si beaux exemples. Mais en admettant ma mort comme possible, ne serait-il pas prudent et convenable de songer à ton avenir, de me remplacer par un homme dont la tendresse veillerait sur toi et te protégerait? Personne ne saurait vous remplacer auprès de moi. Clémentia, les événements et les hommes se succèdent dans le monde comme les vagues de la mer sans interruption. C'est une loi de la nature. Ta vie qui commence à peine ne saurait être remplie par la mémoire de ton second père. C'est là le rêve d'un cœur aimant, oublie-le, et souviens-toi que la femme a été créée pour devenir la compagne de l'homme. Pourtant, mon oncle, vous m'avez dit bien souvent que Dieu suffit à la femme dont le cœur est pur. C'est vrai, ma fille, mais pour conserver sa tranquillité, une femme a d'autres devoirs à remplir, et sa vie d'autres exigences à subir que celles du cœur, surtout si elle est jeune. Il faut ou qu'elle se retire du monde ou qu'elle cherche un appui si elle y reste. Autrement, sa vie, indépendante et inutile, devient une exception au milieu de l'ordre qui régit la société humaine. Le célibat, ma fille, est une chose sainte quand il n'est pas le résultat d'un égoïsme en opposition aux lois sociales comme aux lois religieuses. Clémentia, ne cherche pas à te soustraire, je t'en supplie, à la mission si belle que le ciel a confiée à la femme ici-bas. « Bien, répondit Clémentia, si j'ai le malheur de vous perdre, je vous promets de me marier. » Pourquoi ne le ferais-tu pas de mon vivant? Je pourrais bénir ton union avant de mourir. » Parce qu'il ne me suffit pas de le désirer pour rencontrer l'homme qui pourra me convenir. » Si, Clémentia, il te suffirait de le désirer pour trouver l'homme le plus digne de toi, le plus capable d'assurer ton bonheur. » Paul ? Demanda tristement Clémentia. Oui, Paul, l'âme la plus belle, le caractère le plus noble, le cœur le plus généreux. Crois-moi, Clémentia, je me connais en fait d'homme. Je puis t'assurer qu'il en est peu qui méritent à aussi juste titre le nom d'honnête homme et de gentilhomme accompli. Clémentia demeura silencieuse quelques instants, puis, avec cette confiance filiale que lui inspirait son oncle, « J'avais toujours espéré, dit-elle, pouvoir vivre comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais si je dois renoncer à ma tranquille indépendance, me soumettre à des devoirs plus étroits et plus difficiles, j'aurais au moins désiré que l'amour pût jeter quelques rayons sur la vie nouvelle que vous me conseillez d'embrasser. » « Tu ne pourrais donc pas aimer Paul ?»« Seulement comme le meilleur de mes amis, après vous. » « Alors ne te marie pas. Tes illusions viendraient s'interposer entre le bonheur et toi, semblables à ce mirage trompeur qui présente au voyageur des objets illusoires, dérobe à sa vue les sentiers battus et l'éloigne du chemin de la vie réelle. Le monde est comme une sirène qui module son chant perfide et séducteur d'après nos sentiments et nos passions. Non, Clémentia, ne te marie pas maintenant, car tu ne serais pas heureuse, et tu le sais, ton bonheur, un bonheur de ton choix, est l'objet de mes plus chers désirs. Néanmoins, quand viendra le jour de prononcer sur ton avenir, souviens-toi des derniers conseils de celui que tu regardes comme ton père. La passion est aveugle, la raison clairvoyante. Si elles ont à lutter, que ce soit la raison qui triomphe. » L'abbé, dans d'autres entretiens, donna encore à Clémentia de sages conseils et d'utiles leçons, puisées dans son expérience de la vie et du monde. Comme il n'eût pas été convenable qu'elle continuât à habiter avec Paul, il lui recommanda de revenir à Séville auprès de la marquise de Cortegane, sa tante, dans le voisinage de laquelle il possédait une habitation déjà préparée pour elle. Il légua sa magnifique bibliothèque à Paul, fit plusieurs autres dispositions, distribua d'abondantes aumônes, et ainsi, pensant à tous, faisant du bien à tous, élevant son cœur et son âme à Dieu dans des ferventes et continuelles prières, il s'éteignit doucement, entouré jusqu'au dernier moment de tous ceux qu'il aimait. Il est des douleurs qui, même chez les natures les plus paisibles, chez les esprits les plus calmes, deviennent pour le cœur, surtout dans la jeunesse, une sorte de fièvre dont rien ne saurait apaiser la violence. Telle fut la douleur de Clémentia après la mort de son oncle. Sa santé s'en ressentit et, pendant plusieurs jours, elle fut véritablement malade. Comme si elle eût voulu éloigner d'elle tout ce qui pouvait avoir l'apparence seule de la joie et du bonheur, elle fit emporter de sa chambre les oiseaux dont le ramage charmait sa solitude et les fleurs aimées qui l'enivraient de leurs suaves parfums. À peine remise de son indisposition, Clémentia, suivant le conseil de son oncle, songea à partir pour Séville. « Paul, dit-elle un jour à son cousin, après avoir vécu 8 ans sous le même toit, nous allons nous séparer. » Paul se tut et baissa la tête, il s'attendait à ce coup terrible. « Je veux, ajouta Clémentia, te dire combien je suis touchée de tes bons procédés, combien cette séparation m'est pénible. » « Alors, dit Paul, mais il n'acheva pas sa phrase. » « Je vais à Séville, ajouta Clémentia, comme pour répondre indirectement à la question inachevée de Paul, dont elle devina le sens. « Je vais demeurer auprès de ma tante, d'après le désir de notre respectable mentor. »« Eh bien, lui dit Paul, si tu ne me regardes pas comme un étranger, tu dois, en compensation de la part de fortune qui devait t'appartenir, accepter au moins une pension suffisante pour t'aider à soutenir la dignité de ton rang. » « La fortune que ton oncle m'a laissée, dit Clémentia, me suffit pour vivre d'une manière convenable. Je ne cherche pas à briller, le luxe m'est antipathique. Mon oncle m'a appris la source et le véritable avantage des richesses, l'aumône et la charité, ses vraies grandeurs de l'âme. Suis toi-même ces exemples et tu trouveras facilement l'emploi de ta fortune. je ne suis pas moins bien reconnaissante de ta générosité et je t'en remercie. Je veux t'en donner encore une autre preuve, Clémence, avant de nous séparer, dit Paul timidement. Si nous ne devons plus nous revoir, je veux du moins mériter de ta part un peu de reconnaissance et obtenir une place dans ton souvenir. Clémence regarda son cousin avec surprise. Que pourrais-je encore attendre de toi ? Tu connaissais, n'est-ce pas, les projets de mon oncle sur nous ? Clémence devint rouge comme la fleur du grenadier. Tu donnas ton consentement, poursuivit Paul. Clémence baissa les yeux et garda le silence. Mais moi, continua Paul, je refusais. Clémence resta stupéfaite. Oui, je refusais. Tu faisais un grand sacrifice en me donnant ta main. J'en fis un plus grand encore en ne l'acceptant pas. Car je t'aimais, Clémence, je t'aimais sans espoir et je voulais que le sacrifice fût tout entier de mon côté. Il y eut un moment de silence. Paul avait la respiration oppressée. Deux grosses larmes tombèrent le long des joues de Clémence. Si j'ose maintenant te faire cet aveu, dit Paul, dont les paroles semblaient sortir avec peine de la poitrine, c'est parce que nous allons nous séparer, sans doute pour toujours. Mais j'ai voulu avoir la consolation de t'inspirer, à défaut d'amour, au moins de la gratitude, de la pitié. Et Paul, ne pouvant comprimer la véhémence de sa douleur, se leva et sortit précipitamment. Paul ! S'écria Clémence, profondément émue. Si Paul eût mieux connu le cœur humain, il aurait su profiter de ce moment d'attendrissement pour gagner ce cœur plein d'admiration, de reconnaissance pour lui, mais sa timidité l'enchaînait, sa modestie le décourageait, sa délicatesse le retenait. Il s'était arrêté un moment à la porte de l'appartement. « Non, se dit-il, je ne veux pas être surpassé en générosité. Si je revenais, tout ce que j'ai fait semblerait prémédité. Les grandes actions exigent de la fermeté. Je ne veux pas m'exposer à perdre la mienne en voyant Clémence entraînée à m'accorder par reconnaissance ce qu'elle n'a pu me donner par amour. » Et il s'éloigna. Clémence, lorsque sa première émotion fut passée, comprit la nécessité d'abréger son séjour dans cette maison où, même en cédant au désir de Paul, elle ne pouvait plus paraître que comme sa femme. La séparation, qu'elle projetait par respect pour les convenances, devenant désormais un devoir par respect pour elle-même, elle hâta donc les préparatifs de son départ. Paul, accablé de douleur, craignant de ne pouvoir la cacher et comprenant combien sa présence devait troubler Clémence, s'était absenté. En sorte que l'aveu de Paul n'avait servi qu'à élever entre eux un mur d'airain et à bannir la confiance fraternelle qui avait jusqu'alors toujours régné entre eux.